Calade 100.9.
L'info locale et régionale.
Présentée par Sylvie Rosier.
Guy de Zérissi, Philippe Branche, auteur historien, nous invite au voyage en Beaujolais. À pied, à cheval, au fil de la Saône, le Beaujolais du XVIe et XIXe siècle décrit par les nombreux voyageurs de renom et de célébrités françaises et européennes qui empruntaient nos routes sur deux itinéraires les plus fréquentés d'Europe. Alors, un recueil numérisé qu'il ne faut pas manquer.
C'est un projet qui date, je dirais, d'une bonne année. On avait décidé avec l'Académie de faire un colloque, comme on fait à peu près tous les deux ou trois ans. Donc le thème, c'était en fait, quelle vision vous avez du Beaujolais. J'avais quelques écrits que j'avais récupérés, parce que ça fait quand même un petit moment que je m'intéresse à l'histoire du Beaujolais. J'avais des petites notes à droite, à gauche, sur des voyageurs qui étaient passés par le Beaujolais et qui avaient écrit quelques lignes, en fait, sur leurs impressions, sur leurs observations, etc. Donc voilà, j'ai continué un petit peu à creuser la question.
Alors, vous vous êtes intéressé effectivement sur un itinéraire en quelque sorte. Il y a trois peut-être lieux que vous avez plus particulièrement cités.
Oui, bah, en fait, c'est pas tout à fait, enfin c'est pas vraiment un choix quoi, c'est-à-dire que j'ai regardé un petit peu comment les voyageurs passaient par le Beaujolais jusqu'au 19e siècle, jusqu'à l'arrivée du train, et en fait il y avait deux routes principales, la route, ce qu'on appelait la route du Bourbonnais, et la route de la vallée de la Saône. Et la route de la vallée de la Saône, il y avait deux itinéraires, il y avait ou par la Saône en bateau, ou alors par la grande route, et ça a donné en fait la route nationale 7 par la route du Bourbonnais, et la route nationale 6 par la Saône.
La terrible montagne de Tarare laisse croire que ces montagnes sont frappées d'une sorte de malédiction, nous dit l'auteur de
Tarare.
Ah
ben ça, oui, c'est quelque chose, c'est vrai que maintenant ça nous fait un peu rire. Comme quoi qu'il y a encore une vingtaine d'années, ceux qui connaissaient un petit peu, pour aller sur Rouen, il fallait passer par le col du Pamouchin. Il y avait ces grands virages, etc. Mais enfin bon, ça se faisait quoi. Mais enfin, il y avait quand même pas mal d'accidents. Et c'est vrai que surtout au début du XVIIIe siècle, où elle était vraiment refaite, la route, on a des récits complètement terrifiants. En fait, c'était la terrible montagne de Tarare qui était connue en fait dans toute l'Europe quoi. Et ça, j'ai découvert ça justement en lisant tous ces voyageurs. On appelait ça la terrible montagne de Tarare. Pas le Mont-Cenis non plus, mais il y avait toujours de la neige, il y avait toujours des problèmes, et puis il y avait des précipices, etc.
Il y a une anecdote peut-être plus particulière qui vient à moi.
La plus connue, c'est Madame de Sévigné qui écrit à sa fille, puisque sa fille vient de se marier, donc elle descend en fait dans sa nouvelle demeure en Provence. Et elle parle justement dans une de ses lettres de la terrible montagne de Tarare. Donc elle a peur pour sa fille de jamais la revoir, etc. Et il y a aussi beaucoup de témoignages en fait où des gens sont morts de froid. Donc oui, non, c'était quand même quelque chose à l'époque.
De nombreux voyageurs de renom et célébrités françaises et européennes ont fréquenté nos routes du Beaujolais et ont signé de nombreux écrits.
En fait, j'ai deux sortes de sources. C'est à la fois le récit de voyage du voyageur en fait, qui écrit un petit peu ses impressions, etc. Mais j'ai voulu aussi m'intéresser à ce qu'on appelle les guides de voyage, qui sont nés au milieu du XVIe siècle. Donc c'était assez frustre au départ. C'était en fait, on parlait des relais de poste qu'il y avait. Généralement, c'était une journée et demie de cheval. Et puis jusqu'aux premiers guides un petit peu spécialisés qui ont vu le jour à la fin du XIXe siècle. Victor Vermorel, toujours lui, a écrit un des premiers. Alors lui, bien sûr, son centre d'intérêt, c'était surtout le vin. Donc il a fait des excursions viticoles en Beaujolais à partir de, je crois, 1901. Un petit livre qui s'appelait « Trois jours en Beaujolais » avec toutes les vignobles, etc.
Et puis, on parle de paysages aussi, hein, de ce fameux Beaujolais, des villes.
Généralement, le Beaujolais est très apprécié par les voyageurs, surtout ceux qui voyagent sur la Saône. Donc on a des descriptions magnifiques en fait de voyageurs anglais, voyageurs allemands, un russe, un petit peu de tout. Et généralement, enfin c'est même plus que généralement, c'est vraiment le Beaujolais est magnifique quoi. Beaucoup disent c'est la plus belle région que j'ai vue. Alors c'est vrai qu'il y a les vignes, mais il y a aussi tous ces châteaux, enfin etc. Et les bords de Saône magnifiques quoi.
Quelles sont les publications qui ont retenu votre attention plus particulièrement?
Parce que c'est vrai que les témoignages de l'époque par des gens qui habitent ici, il y en a très peu. Ou alors c'est vraiment, comme vous dites, historien, donc c'est très... Voilà, c'est des...
Académique.
Voilà, académique. Tandis que là, il y a un petit peu des poètes, des artistes, et donc il y a tout de suite quoi, un petit côté un petit peu poétique, un petit peu de la description. Donc j'ai trouvé, il y a des passages qui sont assez magnifiques.
Ouais, voilà. Très bien, alors on peut le dévoiler ou...
Alors après, bon, il y a des descriptions à la fois de paysages, paysages, mais il y a aussi des descriptions un petit peu de villes. Voilà, John Moore, par exemple, un voyageur anglais en 1786, qui dit « un charmant pays plus agréable à voir qu'à décrire ». Et aussi une anglaise aussi, parce qu'en fait, il y a beaucoup, beaucoup d'anglais. Bah, c'est eux qui ont inventé le tourisme, ce qu'on appelait le grand tour autrefois. C'est-à-dire que l'aristocratie anglaise, quand ils finissaient leurs études, de faire un tour d'Europe, alors certains ont été jusqu'en Orient, etc. Donc on a beaucoup de descriptions d'anglais. Cette anglaise s'appelle Charlotte Anne Eaton en 1826. Notre voyage sur la Saône le lendemain matin jusqu'à Lyon fut cependant les plus beaux. Les larges eaux de la Saône coulent ici majestueusement dans une vallée dont la richesse et la beauté en font un second paradis.
À noter également le choix judicieux des illustrations qui accompagnent le voyage en Beaujolais.
Oui, j'ai essayé de beaucoup travailler un petit peu sur l'illustration, essayer de trouver justement des choses qu'on n'avait pas trop vues jusqu'à maintenant.
On va peut-être maintenant préciser où est-ce que l'on peut effectivement lire le voyage en Beaujolais.
Voilà, donc j'ai voulu en fait qu'il soit accessible à tout le monde, parce que c'est vrai que ça fait une trentaine de pages, 35 pages, donc c'est difficile de le faire publier en l'état. Donc j'ai voulu en fait le mettre en ligne, donc il est disponible, donc vous allez sur la page Facebook, la mienne, donc Philippe Branche, ou alors sur une page que j'ai créée qui s'appelle La Ségusia, S-E-G-U-S-I-A. Vous avez un lien qui vous donne en fait la possibilité de à la fois de le lire en ligne et de le télécharger comme vous voulez. Ouais.
Concert Gospel Groove au profit du Secours catholique le 4 novembre à 18h en l'église d'Anse. Le Secours catholique de Villefranche-sur-Saône vous invite à un concert caritatif. Pour nous en parler, Alain Hanetel, nous revenons avec celui-ci sur les missions menées de l'association.
Oui, alors le Secours catholique est installé à Villefranche-Oulien. Nous partageons les locaux du Secours populaire et des Restos du Cœur. La particularité du Secours catholique, c'est qu'il fait du dépannage d'urgence, mais il ne distribue pas de vêtements de nourriture. C'est-à-dire, nous sommes vraiment ciblés sur l'accompagnement des personnes en difficulté. C'est-à-dire des personnes isolées ou qui ont des problèmes pécuniers, économiques, administratifs. Voilà, et nous accompagnons à travers différentes activités. Oui, c'est ça, c'est de l'accompagnement individualisé. Le point d'entrée, souvent, ce sont les assistantes sociales qui nous adressent ou les personnes nous contactent en direct. Il y a toujours une phase d'accueil et d'écoute où on diagnostique avec la personne la situation ou la famille la situation et puis on met en place des solutions qui peuvent aller de l'alphabétisation courte français en passant par les jardins solidaires. Nous faisons du coaching, de la recherche et du maintien dans l'emploi. Et nous animons aussi dans des EHPAD des séances de jeux, de chants et visites de personnes isolées ou personnes âgées.
Du soutien scolaire ?
Soutien scolaire, oui. On a une belle équipe de soutien scolaire d'une dizaine de personnes très individualisée, qui traite une quinzaine, vingtaine de lycéens, quelques étudiants.
Une association dite caritative parce qu'elle vient en soutien aux personnes.
Alors le profil, malheureusement, ce sont souvent des familles monoparentales qui se retrouvent en difficulté suite à une séparation. Mais après, le profil peut être très différent. Ça peut être des personnes qui n'ont pas de logement, ça peut être des personnes, des migrants, ça peut être des gens qui rencontrent, qui ont eu une stabilité, qui ont eu des difficultés, soit de santé, soit familiale, et qui rencontrent des difficultés. L'appauvrissement se ressent, on a une affluence de personnes avec des besoins durables d'aide. Les difficultés passagères sont plus rares, on a vraiment des gens installés dans de la difficulté.
Aujourd'hui, c'est aujourd'hui.
Mmh. Et donc, il y a beaucoup de conseils sur l'établissement, le respect d'un budget, sur la structuration de la vie familiale. Voilà, le profil est beaucoup familial.
Mmh. L'âge ?
Alors là, ça démarre à 23-24 ans. On a des étudiants qui peuvent être en difficulté. Et puis, on peut aller jusqu'à des personnes qui ont 90 ans, qui sont dans l'isolement, qui ont besoin de compagnie, de discuter. Voilà.
Les jardins partagés, une solution pour manger à moindre coût.
Le participatif collectif, il est surtout sur les jardins solidaires, où là, on a une quinzaine de familles. Chacun peut cultiver son terrain. On cultive aussi pour d'autres associations des parcelles collective. Ça permet aux gens de se connaître, de travailler ensemble. Ça permet aussi de collecter les difficultés. Et puis, on fait des animations, chant, guitare, pique-nique, barbecue.
Ça, c'est festif, c'est chouette.
Donc, ça. Ouais, ça amène du lien. Ah ben, c'est toujours festif, hein. On ne donne pas dans la tristesse. Les gens ont besoin de sourire, ils ont besoin de réconfort.
On remonte le moral.
Donc, on remonte le moral, oui, exactement.
Et vous nous faites danser, chanter.
Oui, oui, puis un petit peu danser quand même. C'est un concert de gospel qui est animé. C'est un groupe qui s'appelle Gospel Groove, qui est de Villefranche-sur-Saône, qui est animé par Sophia Amaille, qui est notre chef de chœur et qui met beaucoup de l'accent sur l'énergie, le partage. Et donc, c'est des concerts assez toniques.
Un concert Gospel Groove au profit du Secours catholique de Villefranche-sur-Saône, le 4 novembre à 18h, en l'église Danse.
Nous sommes bénévoles hein, au Secours catholique, mais nous avons besoin un peu de moyens pour mener nos activités, nous outiller. Donc ça fait partie des appels de fonds qu'on fait sous forme de nouveau festive et conviviale. Alors on vous emmène à Ans. Ça se passe le samedi 4 novembre à 18h à l'église d'Ans. C'est un concert qui va durer environ 2 heures. Les entrées peuvent se prendre à l'office du tourisme de Villefranche, mais également à l'entrée de l'église jusqu'au démarrage du concert.
L'info locale et régionale, c'est tous les jours sur le 100.9 et radio-calade.fr.
Calade, ma radio.